RFI. Le Monde à midi.
Il y a 80 ans, le monde découvrait l'ampleur de la Shoah, l'horreur de ce que le régime nazi avait infligé aux Juifs au moment de la libération du camp par des soldats russes. Ce jour, le 27 janvier, a été choisi comme journée internationale de l'Holocauste et je vous propose de nous rendre en Israël où l'accent est mis sur la transmission de la mémoire. Michel Paul.
80 ans après, il ne reste plus que quelques survivants des camps de la mort.
Mon nom est Aaron Krell. J'ai survécu à Auschwitz. Je voudrais que vous vous rappeliez les derniers mots de mon frère, Avrom Tzvi. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas.
Ce souvenir, ne pas oublier.
Je m'appelle Moti Ligvornik. Je suis de la seconde génération, puisque mon père a survécu à la Shoah en France.
La transmission de la mémoire de la Shoah, c'est l'objectif que se fixent désormais des institutions comme le mémorial de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem.
Et moi, ça fait partie de ma vie. J'essaye de transmettre avec beaucoup de pudeur à mes enfants. On a des comportements encore, alors qu'on n'a jamais subi nous-mêmes la Shoah, et j'essaye de transmettre le savoir, mais sans toutes ces problématiques.
Et particulièrement cette période, l'éducation à la Shoah est sans aucun doute un des piliers fondamentaux de l'identité nationale israélienne. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Voilà, 80 ans après la découverte du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, cette journée de commémoration est aussi l'occasion pour nous de donner la parole à ceux qui travaillent au quotidien pour que personne n'oublie jamais. Bonjour Sophie Naoum.
Bonjour.
Vous faites partie de ces gens-là puisque vous recueillez depuis des années déjà la parole de rescapés du génocide, de survivants des camps de la mort. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce travail documentaire ?
Alors en fait, c'est une vaste question, mais il y a une quinzaine d'années, je faisais un documentaire sur le boxeur d'Auschwitz, Victor Young-Pérez, et à cette occasion, j'ai rencontré pour la première fois d'anciens déportés. Et en fait, j'ai fait un constat qui était finalement très naïf et qui était l'évidence même, c'est que ces rescapés de la Shoah étaient déjà très âgés. Jacques Altman, que j'ai rencontré à l'époque, avait déjà près de 80 ans. Et je me suis dit qu'on était sur les dernières années des derniers témoins et que mes enfants, quand il sera en âge de comprendre ou en tout cas de poser des questions, il n'aurait pas la possibilité d'avoir un témoin qui vient dans sa classe et voilà, d'avoir cette présence directe. Et donc, j'ai voulu pallier tant que faire se peut ce manque. Rien ne remplacera évidemment jamais Elie ou Ginette ou Esther, mais disons que j'ai voulu créer du lien entre ces nouvelles générations et ces témoins en créant un outil qui soit vraiment adapté, donc qui soit intime, humain. Je vais chez eux, ils me parlent évidemment de la guerre, mais aussi de leur vie avant, de leur petite enfance, de leur vie après. Donc on balaye toute leur vie dans un cadre comme ça, très chaleureux, très intime. Je passe beaucoup de temps chez eux. Et en fait, ensuite, je fais un montage assez court et efficace d'une dizaine de minutes. Donc ce qui m'a poussée à faire ça, c'était vraiment cette idée qu'il manquait cet outil peut-être plus moderne, cette vulgarisation, cette intimité, cette proximité qui pourrait peut-être permettre qu'ensuite des jeunes continuent à s'intéresser à cette histoire, en tout cas que ça pourrait servir d'accroche.
Vous pensez qu'il y a un risque de voir la mémoire s'étioler après la disparition des derniers survivants ?
Oui, bien sûr. Enfin, l'histoire s'éloigne. Bientôt, ça appartiendra au livre d'histoire, comme plein d'autres histoires avant. Donc, évidemment, il faut susciter l'intérêt chez les jeunes. Et moi, ce que j'essaye de leur faire passer comme message, c'est que ce que ces témoins transmettent, en fait, c'est pas le passé, c'est pas des histoires, c'est pas ils sont pas là pour qu'on pleure avec eux, qu'on pleure sur leur sort. Ils témoignent comme un cri d'alerte, en fait. Ils alertent les jeunes des dangers, de la haine. Voilà, ils expliquent jusqu'où l'homme peut aller. Et non seulement j'ai peur évidemment que la mémoire disparaisse avec eux, mais de toute façon je suis déjà très inquiète du présent et eux aussi. Donc on est déjà dans une situation où finalement cette mémoire et ces témoins, même s'ils sont encore là, moi je reçois toute la journée déjà des messages d'insultes, de révisionnistes, d'agressivité même par rapport à eux. Enfin il y a un vrai verrou qui a d'ores et déjà sauté.
Vous nous parlez de ce cri d'alerte, j'aimerais qu'on écoute Victor qui s'est confié à vous. Lui a été arrêté avec sa famille et voici ce qu'il vous dit.
Les Allemands nous ont dit, vous allez, ne vous affolez pas, nous venons pour un simple contrôle d'identité, car la méthode des Allemands, c'était de faire croire, quand une situation difficile se présentait, de minimiser la gravité de la situation. Et donc, ils nous ont dit, pour que les gens ne résistent pas.
Minimiser pour qu'il n'y ait pas de résistance, ce sont des mots qui ont encore un écho aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, je pense qu'on est en plein dedans. Elie Buzyn disait autre chose, il disait, vous savez, moi, mon père avait lu Mein Kampf et il disait, ce que dit Hitler, c'est des bêtises, il ne le fera jamais. Et Elie disait, même mon père, qui a fini mort pendant la Shoah, n'y croyait pas. Et il disait, il faut prendre au sérieux les menaces, il faut arrêter le déni de réalité. Quand les gens ont pour projet de vous tuer, quand ils sont en situation de le faire, ils le font. Et pour revenir sur ce que dit Victor, oui, il y avait plein de techniques comme ça. Par exemple, il y avait, on m'a raconté plusieurs fois, des porte-manteaux avec des numéros à l'entrée de la chambre à gaz. Et on disait aux gens de choisir un porte-manteau et de mettre leurs affaires sur un porte-manteau et de retenir le numéro. Donc vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils n'allaient pas ressortir de la chambre à gaz. Tout ça, ce sont des techniques pour que les gens ne se rebellent pas et suivent les ordres, en fait. Voilà, c'était plein de ça tout le temps.
Vous nous parlez des messages que vous recevez, vous, aujourd'hui, d'insultes, de mots très durs, y compris concernant ces survivants qui vous parlent. En France, le nombre d'actes antisémites a augmenté de manière considérable, dans plusieurs autres pays du monde d'ailleurs, depuis l'attaque terroriste inédite du Hamas le 7 octobre 2023 et depuis le début de la guerre menée par Israël à Gaza. Comment est-ce que vos interlocuteurs vivent cette situation ?
Extrêmement mal. Je ne veux pas du tout minimiser ou essayer d'être optimiste par rapport à ça. Ils sont effarés, ils sont dévastés, ils sont très inquiets, ils ont peur, ils voient leur cauchemar revenir et tous me disent qu'ils n'auraient jamais imaginé voir ça de leur vivant. C'est un constat terrible, c'est un échec terrible pour nous tous et moi j'ai vraiment honte par rapport à eux. Déjà, ils ont survécu, ce qui est en soi un miracle. Ils étaient faits pour mourir, ils ont survécu. Et puis après, ils ont été accueillis, d'ailleurs pas accueillis par des pays qui ne voulaient pas d'eux, qui ne voulaient pas entendre leurs histoires, qui ne les ont pas aidés. Malgré tout, ils ont été de l'avant avec une dignité, une élégance incroyable, un courage inouï. Ils ont été incroyables. Moi, je n'ai pas de héros dans la vie à part eux parce que vraiment, je trouve que c'est une prouesse ce qu'ils ont construit après la guerre. Certains ont fait médecine, certains sont devenus avocats. Ils se sont battus pour l'humain toute leur vie. Ensuite, sur le tard, parce que la parole a été très compliquée, ils se sont mis à témoigner tard dans leur vie. Et puis, ils ont consacré leurs dernières années de leur vie à ça.
Oui, c'est ça, c'est important ce que vous nous dites. C'est que la parole, elle n'a pas toujours été évidente. Ça, on le constate, par exemple, en écoutant Guy dans l'une de vos vidéos.
J'ai parlé avec mon frère et on a discuté chaque fois. On a dit, est-ce qu'on parle ou on ne parle pas? Mon frère aîné, il a dit, non, on ne parle pas. Pour la simple raison, ça leur fera de la peine, que c'est inutile. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une situation pareille?
Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui, Sophie Naoum, de faire parler les survivants? Est-ce que tous veulent raconter ce qui leur est arrivé?
Moi, je ne force personne et c'est toujours volontaire. Évidemment, j'essaye jamais de convaincre personne. À la fin de leur vie, oui, ils ont envie quand même de laisser des traces. Leur famille leur demande en général. Mais il faut savoir que cette parole a été extrêmement difficile. Déjà parce qu'au retour de la guerre, on les a traités de fous, de menteurs. On ne les croyait pas. Ou alors de collabos. Enfin, ou alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous en sortir? Donc, il y a eu déjà une suspicion envers eux. On ne voulait pas les entendre. La France voulait vivre, être heureuse. C'était la réconciliation nationale. Donc, ils sont arrivés comme un cheveu sur la soupe. Après, évidemment, il y avait toutes ces douleurs où il a fallu aller de l'avant, construire une vie en essayant de faire ça de côté, mais de laisser ça de côté, même si ça revenait systématiquement dans les cauchemars. Mais en tout cas, ils ont été de l'avant. Et puis c'est tard qu'ils ont réussi à parler. En gros, après la sortie du film Shoah ou après le discours de Jacques Chirac au Valdiv en 95, pas vraiment beaucoup avant. Donc aujourd'hui, oui, ils ont envie de parler, mais ils voient bien que leur parole ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qui est tragique.
À qui ils s'adressent leur témoignage, justement ?
Écoutez, ils ont espéré toute leur vie pouvoir expliquer aux jeunes, éduquer les jeunes pour que ça n'arrive plus jamais. Voilà, et on a crié, on a martelé plus jamais ça comme un mantra en se disant que ça allait suffire. Et puis le documentaire de long métrage là que je viens de finir sur les derniers d'Auschwitz se conclut par la phrase de Robert Wachmann qui dit « Pendant des années, on a dit plus jamais ça, et bien plus jamais ça, c'est pas garanti ».
Je vous remercie beaucoup Sophie Naoum d'avoir été en ligne avec nous et j'indique à nos auditeurs que votre travail, les entretiens que vous ont accordés les survivants en attendant donc ce long métrage, des extraits sont disponibles sur le site lesderniers.org. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.